Le corps est entièrement ouvert.
Et c'est tout passé partout.
Oui, c'est passé partout.
Un à un, tous les organes vont être prélevés, pesés, disséqués et répertoriés.
Quand vous prenez un peu de recul, il y a des fois, vous vous dites, mais c'est un boulot ignoble. C'est ignoble. Donc, pour survivre à l'ignoble, il faut en faire un objet. Sinon, psychologiquement, c'est pas possible. Enfin, ou alors, c'est très difficile. Ou alors, on souffre.
Aujourd'hui, dans une cour d'assises, ce que dit le médecin légiste est considéré comme sans bavure, sans discussion.
Ces familles sont contentes de voir la dernière personne qui s'est occupée, en fin de compte, de leur défunt, de voir un peu notre tête. Et c'est vraiment important pour eux qu'on leur explique de quoi est mort. Surtout quand c'est un petit peu violent, c'est important.
L'avantage de faire de la médecine légale, l'avantage de voir des cadavres à longueur de journée, de les découper, d'étudier leur cause de mort, c'est que vous comprenez la valeur de la vie.
Heures du matin, quelque part dans la campagne poitevine. Michel Sapanet se rend sur son lieu de travail. Une scène de crime.
Bonjour, Jean-Marie.
Bonjour, je suis le médecin légiste.
D'accord, allez-y.
Merci.
Mais une scène de crime un peu particulière. Une reconstitution dans les conditions du réel. C'est Michel Sapanet qui a tout organisé. Il a placé à l'abri des regards un vrai squelette et une arme dans un sous-bois. Le but de cette simulation est de former les gendarmes de l'identification criminelle et une étudiante en médecine. En 20 ans de métier, Michel Sapanet a travaillé sur des centaines de scènes de crime. Passionné par son métier, il en a écrit un livre. À chaque fois, il suit les mêmes règles, ne pas se précipiter, s'imprégner des lieux.
Moi, j'ai une organisation en trois cercles. Que j'aime assez. J'arrive près de ma forêt, c'est mon premier cercle. Quel type de forêt? Qu'est-ce que je peux y trouver comme animaux? Est-ce qu'il y a des sangliers qui sont susceptibles d'être passés par là?
Bonjour.
Quel type de terrain est-ce que j'ai? C'est des feuillus, c'est des conifères, est-ce que la terre est acide, est-ce qu'elle est calcaire? Voilà, ça c'est mon premier cercle, et puis là-dedans je rajoute la météo de ces derniers jours.
Arrivé sur les lieux de son assistante et surtout de Lolita, sa stagiaire en dernière année de médecine. L'objectif de la journée, lui apprendre à travailler sur une scène de crime et lui donner l'envie de devenir légiste. Elle a encore tout à apprendre.
Le directeur d'enquête nous a prévenu il y a une heure à peu près de ça.
Ah ouais.
Comme quoi il y avait un promeneur qui a découvert un squelette là où il y a les fléchages.
D'accord.
Hein, et les numéros. Et puis... On n'a pas fouillé encore, on voit le crâne, nu, hein. Elle est encore habillée. On a retrouvé des chaussures, et là on a trouvé une arme, là. Hein. On essaie de la dégager un peu. Donc on pense qu'il y a eu une bagarre ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas naturel, quoi.
C'est pas naturel.
Vous voyez le médecin légiste en costard cravate sur les scènes de crime? Il vaut mieux éviter.
Les gendarmes de l'identification criminelle viennent de terminer leur première constatation. Découverte du corps et marquage des indices au sol. C'est au tour du médecin légiste d'entrer en scène. Gants, combinaisons, surbottes, masques. Il doit se protéger entièrement, ne pas polluer la scène de crime. Premier conseil à Lolita.
Bon, c'est votre première scène de crime. Hein. Donc le but de tout ça, c'est éviter d'amener des indices, et en particulier votre ADN, sur la scène de crime. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que je voie vos cheveux.
Mon deuxième cercle, je m'approche, c'est le bosquet proprement dit. Les traces, le chemin, vous avez vu, le sentier, tout cet environnement, je le regarde. Est-ce qu'il y a une anomalie particulière là-dedans ? Et puis mon troisième cercle, c'est la scène de crime telle qu'elle était balisée donc, par les gendarmes, qui, elle, effectivement, fait là un carré de 10 mètres par 10.
Une scène de crime balisée, indispensable pour repousser les curieux.
Il y a la fascination morbide, tout simple. Parce qu'il n'y a pas, hein, le cadavre attire les gens. L'accident sur un bord de route, si une voiture est sur le toit, beaucoup de gens vont s'arrêter pour regarder au loin. Pas forcément s'impliquer, mais ça va. Il y a une fascination naturelle pour ça, ce qui n'est pas notre cas. Moi, je fais ça plus pour apporter des réponses, surtout dans le cadre des découvertes de cadavres. On a quand même une victime, forcément, mais on a des gens autour, on a de la famille. Et c'est important pour eux de savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il faut que la vérité soit, dans le cas d'un meurtre, il faut que la vérité soit, mais il faut surtout aussi que les personnes puissent faire leur deuil. Et je pense qu'on a une responsabilité importante à ce niveau-là. Donc moi, c'est dur quand je ne sais pas. Quand je n'ai pas trouvé, là, ça me pose des problèmes. Après, c'est des questions techniques. Hein, donc on fait abstraction des sentiments personnels et puis on s'attarde sur ce qui est technique, quoi.
Une paire de lunettes avec un verre droit absent, indice 5. Une chaussure.
Rien ne doit leur échapper. Chaussures, vêtements, armes. Le moindre indice est fondamental pour la suite de l'enquête.
C'est un pistolet semi-automatique.
Sous le regard attentif des gendarmes et de son étudiante, Michel Sapanet prélève tout ce qu'il trouve. Voilà. Et le moindre indice est systématiquement pris en photo pour l'instruction.
Un ossement.
Ah oui.
Là, il y en a. Sous une feuille.
Ce sont les restes, l'extrémité inférieure d'un avant-bras, puisqu'on a radius et cubitus. Donc je pense que vraisemblablement la main doit être quelque part là-dedans. Et ensuite, donc la tête. Donc c'est ça qu'ils ont,
ouais.
Ils ont vu.
Oui, ouais. En premier lieu. Ouais.
Donc là, on a le crâne. Alors on va voir dans quelle orientation il est. Hein. Vous comprenez, hein, Lolita, on intervient sur la scène une fois que les techniciens d'investigation criminelle sont passés. Ils ont tout repéré, tout ce qui est autour du corps. Donc là, ils ont eu la gentillesse de nous attendre pour mettre les indices dans les sacs, mais aussi bien ils auraient pu le faire. L'avantage, c'est qu'on situe parfaitement la position de chaque élément et l'arme en particulier. Donc on a des lunettes assez loin, une chaussure, une arme et un corps. Voilà, donc après on verra, une fois qu'on aura dégagé tout ça, comment on peut intégrer un scénario là-dedans.
C'est intéressant d'avoir les hypothèses des enquêteurs, ça vous permet de prendre le contre-pied éventuellement, que ce soit comme jeu ou comme technique. Parce que si vous avez deux directions d'enquête, forcément, on a une chance de trouver une vérité. Et puis, pour faire ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus informatif d'être sur les lieux que d'être seulement dans sa salle d'autopsie. Pour moi, ça fait partie de l'activité du médecin légiste. Et effectivement, c'est extrêmement enrichissant et agréable.
La difficulté, c'est de ne pas perdre dedans. Donc il est vraisemblable qu'elles sont tombées, hein, comme très souvent. Donc il me faudra un sac papier, parce que tout ce qui est corporel, donc qui contient de l'ADN, il faut pouvoir préserver cet ADN. Et de préférence, on met ça dans des sacs en papier craft qui permettent à l'humidité de s'évacuer.
Voilà. Donc Ah oui, effectivement. Ça, c'est des dents qui sont tombées après la mort. Donc, il faudra les récupérer là-dedans. J'ai le maxillaire supérieur qui est parti en morceaux.
Maintenant que les indices sont répertoriés, Michel Sapanet peut commencer à toucher au corps.
Ma tête.
La difficulté est de prélever le squelette en entier, sans perdre le moindre fragment d'os. À chaque scène de crime, son environnement, il faut savoir s'adapter. Ici, pas de coton-tige, mais une bêche.
Alors, la solution que j'ai adoptée, c'est la suivante. C'est de passer suffisamment profond sous le corps. Donc dégager. Bon, évidemment, là, je pense que je vais emporter quelques végétaux, mais c'est pas grave. Mettez la planche, carrément. Un peu pas plus. Non. On essaie de redresser la planche. Voilà, très bien. Très bien. Bon, là, on a de la chance. En quelque sorte, on a les bas qui nous ont tout gardé. Voilà. Tout ça, on va l'emporter.
Le squelette, placé sur une planche en bois, sera transféré au CHU pour faire son autopsie.
Donc ce qui serait peut-être bien, c'est que vous passiez un petit coup de poêle à frire.
Par-dessus, histoire de voir qu'il n'y ait pas de bijoux. On sait jamais.
On fait voilà. Avec les bijoux.
Dernière vérification avant de quitter les lieux. Un travail minutieux. Rien n'est laissé au hasard. C'est un vrai travail de fourmi, en fait.
C'est un peu.
C'est le but, déjà.
Les fourmis sont travailleuses.
Le but, c'est d'identifier la victime. Mais après, s'il y a meurtre, il faut trouver des auteurs, quoi. Le ou les auteurs.
Ça peut vous prendre des heures et des heures.
Des jours et des jours. Des heures, ça serait bien pour nous. C'est plutôt des jours. Maintenant, il y a un gros travail de fait sur le terrain, mais il y a un énorme travail de fait également en salle d'autopsie, quoi. Et des fois, on revient. Parce que c'est pas parce qu'on a prélevé le corps qu'on va libérer le territoire. On va faire garder le territoire par les gendarmes. Tant qu'on n'a pas trouvé des solutions exactes de la mort naturelle ou du meurtre, ben on fait garder la zone.
24 heures sur 24, un gendarme est là pour surveiller.
24 heures sur 24, oui.
Expliquer les raisons de la mort, c'est la mission première du médecin légiste.
L'intervention du médecin légiste dans l'enquête, c'est dans les premières heures. C'est ses propres constatations. Et c'est aussi, évidemment, ce que lui demande le juge d'instruction.
Et il y a une affaire que connaît bien Dominique Verdeillan. Une affaire dans laquelle les premières constatations et l'autopsie ont été bâclées.
Il y a aujourd'hui une affaire criminelle qu'on cherche encore à résoudre alors qu'elle date de 84. On espère trouver la solution dans l'ADN. C'est l'affaire Grégory.
Au commencement de l'enquête, il y avait deux médecins légistes, dont le docteur Pagel. C'est elle qui a pratiqué l'autopsie de Grégory. Il portait un bonnet, un anorak, il avait une cordelette autour du cou, des mains et des chevilles. Les liens n'étaient pas du tout serrés. Le juge Lambert, lui aussi, était là. Il ne voulait pas du tout qu'on fasse les prélèvements, accuse le docteur Pagel. Ça nous a surpris, on a insisté, on a juste obtenu l'autorisation de prélever du sang et les poumons. En omettant de faire tous les prélèvements, on a réduit les possibilités de faire la lumière, enchaîne le professeur Le Breton.
L'autopsie du petit Grégory a été mal faite. Alors elle a été mal faite peut-être à cause du médecin légiste, mais aussi à cause du juge d'instruction qui lui a donné une mission beaucoup trop vague.
25 ans après les faits, on ne sait toujours pas si le petit Grégory est mort noyé dans les eaux de la Vologne ou s'il est mort avant. Et on ne connaît toujours pas le coupable. Il aura fallu plus de 2 heures à Michel Sapanet pour expliquer à son étudiante sa technique d'enquête sur le terrain. Les gendarmes de l'identification criminelle libèrent les lieux. C'est le moment où le légiste peut commencer son enquête médicale. Enquêter pour comprendre, apprendre et répondre à des questions physiques et philosophiques. C'est ce qui a donné naissance à la médecine légale.
Pourquoi naît la médecine légale ? Sans doute pour expliquer des choses extraordinaires et peut-être l'interrogation de l'homme par rapport à des questions qui, au départ, dans l'Antiquité en tout cas, étaient attribuées au divin. Et cette interrogation qui était déjà un début de la science. Est-ce totalement quelque chose de magique, ce qui se passe, ou peut-on avoir une explication ? C'est cette curiosité qui anime la médecine légale. Je fais de la médecine légale, donc je vois du vivant, je vois des morts.
Désir de connaissance, approcher la réalité et percer le mystère qui entoure le corps et le crime.
Jusqu'à maintenant.
Les autopsies ont connu au cours de ces derniers siècles un développement constant. On a appris à briser le tabou de la mort et du corps.
La première autopsie judiciaire, on va dire en France en tout cas, que c'est Ambroise Paré. Directement, chirurgien du roi, et ce roi François Ier, homme de la Renaissance, homme de curiosité, va en avant. Mais c'est aussi la période où Vésale en Italie fait les premières autopsies, c'est la période où Léonard de Vinci fait ce fameux schéma corporel que l'on utilise toujours en médecine, et c'est la première description des corps, cette première interrogation. Une autopsie très célèbre qui a lieu, c'est celle qui se fait après le tournoi où Henri II est blessé mortellement par une lance lors d'un tournoi, occasionne des lésions crâniennes encéphaliques. C'est une des premières raisons et on a dans le judiciaire énormément d'éléments. C'est le début de l'arrivée de la preuve dans le judiciaire. Alors que nous l'oublions pas, à l'époque, il reposait beaucoup sur la question, c'est-à-dire la torture, les éléments d'aveu. L'aveu a toujours été très en avant. On va vers des preuves et non plus simplement l'aveu de culpabilité.
L'univers des médecins légistes, des salles d'autopsie qui sentent la javel, une lumière lugubre. Un métier à part qui fascine autant qu'il effraie.
Il ne doit pas y avoir de limite aux moyens utilisés parce qu'il s'agit d'une personne. C'est pour ça qu'il faut que ça devienne un objet d'étude. Le temps de l'autopsie, c'est un objet d'étude. Une fois que l'autopsie est finie, on le restaure, on le lave, on le maquille, on le rhabille et on le réintègre en quelque sorte, alors pas dans la communauté des vivants parce que là c'est un petit peu trop tard, mais on lui redonne sa qualité de personne. Mais entre les deux, il faut absolument que j'en fasse un objet d'étude. Sinon, une autopsie, c'est extrêmement agressif. Je rajoute aux violences de l'auteur, je rajoute, alors c'est pas des violences, mais je rajoute mes propres mutilations. Je l'ouvre complètement, j'ouvre toutes les cavités, je prends tous les organes. C'est à la limite, quand vous prenez un peu de recul, il y a des fois, vous vous dites, mais c'est un boulot ignoble. C'est ignoble. Donc pour survivre à l'ignoble, il faut en faire un objet. Sinon, psychologiquement, c'est pas possible. Enfin, ou alors c'est très difficile. Ou alors on souffre. J'ai pas envie de souffrir à cause de mon métier.
L'unité médico-légale du CHU de Bordeaux est l'une des plus importantes en France. Plus de 500 autopsies sont pratiquées chaque année. Depuis 1996, Sophie Grom dirige cette unité. Femme au parcours atypique, elle cumule les diplômes de droit, de sciences et de médecine. Sophie Grom est une figure emblématique de la médecine légale en France. Pendant 2 ans, elle a travaillé pour le Tribunal pénal international sur les charniers au Kosovo pour identifier les squelettes. Une expérience marquante pour cette femme alors jeune médecin légiste.
Marilyn Deschouwer-Forêt, je vous mets le courrier. Et vous avez ses coordonnées.
Les affaires fourniraient. Pierrot le fou, Allègre, le gendarme Chabert, c'était elle. Voilà. Sophie Grom se prédestinait à une carrière de commissaire de police, mais c'est assez naturellement qu'elle s'est tournée vers la médecine légale. Pour elle, c'est avant tout un métier d'enquêteur.
Honnêtement, je pense que quand on fait médecine, c'est pas a priori pour aller découper son prochain, parce que bon, c'est très prosaïque, mais c'est un peu la première image que ça renvoie. C'est l'aboutissement d'un long cheminement, d'une double culture quand même. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait médecine légale parce que j'étais médecin et juriste, et non l'inverse. On me dit souvent, ah ben oui, vous avez fait du droit, vous êtes médecin légiste, c'est normal. En fait, non, pas du tout. C'est parce que j'étais médecin et juriste que j'ai fait de la médecine légale. Mais c'est passionnant, je regrette pas.
Tu es attendue, ma chérie.
Aujourd'hui, Sophie Grombe a réuni une vingtaine de médecins légistes de la région Aquitaine. Ils travaillent souvent seuls, sans les moyens techniques du CHU. Il faut donc les remettre à niveau. L'objectif est de mettre au point un protocole pour harmoniser les méthodes de prélèvement pendant une autopsie. C'est une phase clé. La moindre erreur peut avoir des conséquences judiciaires graves. La veille, un motard a été amené à l'unité médico-légale. Décédé sur la voie publique, sans témoin, son autopsie est obligatoire pour l'identification du corps et pour déterminer s'il n'a pas fait un malaise préalable à son accident. Étape numéro 1.
Fracture costale gauche.
Le corps doit être entièrement scanné. Sous le contrôle de Sophie Grombe, c'est une autre légiste du CHU de Bordeaux qui dirige l'autopsie.
De toute façon, la clavicule, regarde, elle n'est pas à sa place. Il y a une luxation, une fracture luxation de la clavicule gauche.
Bon, la main aussi.
Et une fracture...
Fracture luxation.
Luxation du deuxième métacarpien.
Une remise à niveau pour certains, pour d'autres l'occasion d'échanger des conseils.
Parce que vous mettez pas de bras anticoupeur ?
Non.
Vous les faites pas à main nue quand même ?
Non.
Vous les faites pas encore avec les dents non plus ?
Non plus.
L'intervention d'une tierce personne
n'est plus de 1m81
environ. Les vêtements thoraciques ont été découpés par le secours.
Étape numéro 2, l'examen du corps.
En lainage beige à rayures, en colure en V.
Vêtements, lésions externes, ecchymoses, coupures. Le moindre détail est mentionné dans un rapport d'autopsie.
Coupure verte, découpée également par les secours.
C'est pas du cuir en fait, hein ?
Non.
Façon cuir alors ?
Ouais.
Comment tu sais que c'est pas du cuir ? Parce que c'est
ça ressemble
plastique.
Pas. Si,
t'as raison.
Moi,
je trouvais
que c'était une spécialiste.
Fracas osseux de l'orbite.
Les choses sérieuses commencent. Changement de ton.
5 cm.
C'est le moment où il faut faire parler le corps.
2 cm.
Pour déterminer s'il s'agit d'une hémorragie, d'un accident d'état d'ivresse ou d'un arrêt cardiaque. Il faut passer en revue une à une toutes les hypothèses. Tout le monde a l'air décontracté, en apparence.
C'est vrai que dans le métier de médecin légiste, à la dose où nous l'exerçons à Bordeaux, c'est-à-dire du temps plein où nous ne faisons que de la violence, effectivement, il faut être assez équilibré et avoir autre chose et des dérivatifs. Je crois que c'est important. Sinon, on ne peut pas, on ne tient pas, c'est très dur. Hein. On voit en permanence, je dis souvent, c'est affreux, ça, les méchants, en permanence.
Une fois lavé, l'examen interne commence. Le corps est entièrement ouvert. Un à un, tous les organes vont être prélevés, pesés, disséqués et répertoriés. Moment clé de la formation, c'est souvent à ce moment-là que les erreurs interviennent.
La première chose qu'il faut faire en début d'autopsie, c'est aller chercher en iliaque. Du sang périphérique. C'est la première chose. Avant de faire quoi que ce soit, avant de percer l'estomac, avant de faire quoi que ce soit. Et le dosage quantitatif se fait sur ça. Elle fait le screening sur le reste. Et le quantitatif se fait sur ça. Et toute la toxico qui est faite au-dessus du diaphragme est fausse. Et je peux vous dire que les contre-expertises sont légion.
Et moi, la bile, c'est 17.
17 millilitres de bile.
Environ 1000 contre-expertises médicales seraient pratiquées chaque année.
Et la rate 149.
La machine judiciaire doit alors se remettre en route. C'est souvent fastidieux et refaire une autopsie peut s'avérer compliqué.
Oh, tu mets ça. Ouais. Je trouve pas que ça sorte. Ouais, un petit peu quand même.
Et donc, vous filtrez le contenu de l'estomac ?
Parce que c'est pour retrouver des médicaments, des comprimés éventuellement. On le pèse. Puis on le filtre, tu vois, regarde ça, je vais regarder si t'as des compilés. Regarde, ça c'est quoi ?
On dirait.
Je sais pas, c'est des éléments blanchâtres, je vais les prendre et puis on va mettre en toxicologie, tu vois, des éléments, ça peut être du complémentaire.
On propose une technique.
Voilà, ça c'est la mienne. Mais par
après,
contre,
il y a des variantes.
Moi, j'ouvre là-bas.
Moi aussi, oui.
Mais bon, n'oubliez pas quand même que quand vous avez le moindre doute dans sur du l'anté ou du post-mortem, il faut laver. On ne lave pas assez. Il faut laver. Ouais. Ça ne craint rien. Vous pouvez mettre tout sous l'eau. Et si ça se dissout, enfin, l'anté-mortem se dissout. L'inverse. Le post-mortem se dissout.
Allez, on y va.
L'autopsie a duré plus d'une heure. Une heure d'analyse, de prélèvement. Une heure pour connaître l'origine du décès. En fait, un banal accident, ce motard est mort sur le coup. Le corps a été meurtri, disséqué, découpé. Un spectacle pénible pour le commun des mortels.
Est-ce que vous avez déjà eu la hantise de vous retrouver justement à la place de ces personnes-là ?
Non, j'ai jamais pensé. Moi, ça ne me dérangerait pas parce que je trouve que c'est important pour ceux qui restent de savoir de quoi est décédée une personne. Il y a un gros sentiment de culpabilité chez les personnes qui entourent un défunt. Je le sais parce que je reçois beaucoup de familles et je vois bien que les familles sont visiblement heureuses, entre guillemets bien sûr, de rencontrer la dernière personne qui a touché à l'être cher et qui est capable de leur dire de quoi il est mort, comment ont été les dernières heures de la vie. Je pense que c'est très important. Bon, évidemment, nous, une fois qu'on est mort, on n'est plus là pour savoir. Mais pour ceux qui restent, je crois que c'est important. On arrive à faire abstraction de cette vision du corps et surtout de se dire qu'est-ce que la personne a ressenti. Parce que c'est ça, en fait, qui est un petit peu troublant. Parce que c'est un acte technique et qu'on cherche la manifestation de la vérité, on cherche les causes de la mort, on cherche un trajet de balle. Voilà. Donc on est méticuleux dans notre acte technique et on ne voit pas la personne, en fait.
Aider les familles à faire leur deuil, déterminer les causes de la mort, aider à trouver des coupables, c'est la partie de la médecine légale la plus connue. Mais dans certains cas, les légistes travaillent aussi avec les vivants. Sophie Grombe a créé le COVA en 1999, le premier centre d'accueil en urgence des victimes d'agression.
Le COVA, bonjour.
Simple bagarre, violence conjugale, viol, agression sur mineurs, afin d'éviter la lourdeur des procédures, toutes ces personnes blessées physiquement et psychologiquement sont reçues par des assistantes sociales, des psychologues, des juristes et des médecins légistes.
Donc, monsieur, c'était une lettre à vos fesses. Vous pouvez venir.
87. Ce matin, un jeune homme est là après s'être fait agresser en sortant de boîte de nuit. La médecin légiste le reçoit pour un examen poussé et faire ses premières constatations. La victime doit raconter dans les moindres détails ce qu'il s'est passé pendant l'agression.
Est-ce que c'est des gens que vous connaissiez ou pas ?
Non, du tout. En fait, je sortais de boîte.
Ouais.
J'étais avec un ami, on attendait on s'est posé sur l'arrêt du tram. Mm-hmm. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un m'a agressé sans motif, quoi, sans le broc. Mm-hmm. Donc, j'ai reçu 3 coups de poing à la tête et un coup de pied.
D'accord.
Et il m'a volé mon portefeuille.
D'accord. Vous avez chuté au sol ?
Ouais, je suis tombé, ouais, 2 fois.
D'accord.
Il m'a fait une balayette et le coup de pied aussi, je suis tombé.
D'accord.
À l'issue de l'entretien, ce jeune homme aura entre les mains une interruption temporaire de travail pour son employeur. Une pièce fondamentale qui l'aidera en cas de poursuite judiciaire.
Ok. L'idée qui m'a poussée à créer le COVA est que la médecine légale est une médecine d'expertise, auxiliaire de justice. On pèse, on mesure, on écrit des rapports au kilomètre, c'est un peu déshumanisé. Et nous avions face à nous, nous l'avons toujours, une population en souffrance, parfois même désespérée. Et je trouvais qu'on pouvait être beaucoup plus utile et soignant aussi, parce que pour être médecin légiste, on n'en est pas moins médecin.
Tous les lundis, l'équipe se réunit pour faire le point sur les dossiers de la semaine passée.
Elle est étonnante dans son comportement parce qu'elle n'hésite pas à redonner les clés au père, alors que souvent, quand on pense qu'il y a un danger, on ne les redonne pas.
Souvent, des dossiers très complexes, comme les cas d'agression sur mineurs.
Quand est-ce qu'elle doit redonner les...
Des réunions nécessaires pour échanger les points de vue et mettre en place un suivi social et psychologique.
Son oncle, pourquoi ça a été barré ? Parce qu'il n'est pas venu, TB, c'est barré.
Si, par ses 3 frères.
Son oncle, on l'a vu.
Sonia.
En fait, donc, c'est une jeune fille qui a pu se saisir d'un séjour en colonie de vacances pour, pour révéler à une animatrice de la colonie qu'elle était donc maltraitée physiquement dans un premier temps par ses parents. Donc suite à ces révélations, il y a eu une mesure avec un suivi éducatif qui a été mis en place. Mmh. Et donc début janvier, elle a pu, par rapport au lien qu'elle avait créé avec l'éducatrice, révéler les viols qu'elle subissait depuis l'âge de 4 ans. Ça commence à l'âge de 4 ans. Voilà, donc elle a pu en parler à l'éducatrice. Donc il y a eu un placement au foyer, dans un foyer. Mmh. Donc voilà, donc elle parle de viol, hein, de viol. Son frère et de
ses frères, ses trois frères.
De ses trois frères, voilà, et de son oncle du côté maternel.
93.
Elle a
15 ans et ses frères et sont plus âgés.
Elle est... entre 21 et 24.
24 et 20 ans.
Ses frères sanguins ou c'est issu d'un deuxième mariage.
Ce qui a pu permettre les révélations, c'est qu'elle est très inquiète pour sa petite sœur de 8 ans.
Qui est toujours dans la famille.
Voilà, c'est toujours quand
elle doit y passer aussi.
Mais on la protège pas plus.
Des dossiers compliqués comme celui-là, ils en traitent 4000 par an.
Avec l'efficacité
pour la grande.
C'est fou, ça.
La grande vient de faire des.
Retour à Poitiers. Dans les sous-sols du CHU, le service de la médecine légale, le service de Michel Sapanet.
C'est notre cadavre pour demain matin ?
Oui, autopsie demain matin. Demain à 13h.
13h, d'accord. Oui. Vous allez au scanner, là ?
Il est 20h. Un corps vient d'arriver. Comme tous les cadavres qui doivent être autopsiés, il doit passer au scanner. Problème ? La machine est au deuxième étage. Le service de médecine légale au sous-sol, alors il faut être le plus discret possible. Une petite partie de cache-cache commence dans les couloirs de l'hôpital. Il ne faut pas être vu, les vivants d'un côté, les morts de l'autre. Chacun à sa place. Vous vous cachez là ?
Oui.
Pourquoi ?
Par rapport aux vivants. Un cadavre sur un brancard. C'est toujours impressionnant. C'est mal vécu au sein de l'hôpital.
Est-ce que les médecins légistes ont un rapport à la mort qui est particulier, différent des autres médecins ?
Mais il est certain qu'il y a un rapport particulier avec la vie et avec la mort, les deux. Le définir, c'est très difficile. Ce que je sais, c'est que ça permet de s'accoutumer à l'idée de sa propre mort, ça permet de prendre conscience de la valeur de la vie, au cas où on l'aurait oublié, et ça relativise considérablement tous les événements qui n'ont pas de gravité réelle.
Autour de la chambre froide, une odeur un peu particulière. Indéfinissable pour certains, mais reconnaissable pour d'autres.
Quoi, là, ça sent un corps putréfié de 3 semaines.
Donc la mort a vraiment une odeur.
Ah oui. Ben, la mort a une odeur. Le carbonisé a une odeur de steak trop cuit. Le putréfié a une odeur qui varie avec les étapes. Ça peut être le beurre rance, après c'est un petit peu style époisse. Et puis après, ça s'aggrave très nettement, comme ici.
Vous arrivez encore à supporter ?
Oh, oui, c'est l'habitude. On ne met pas les petits produits. Enfin, moi, je ne mets pas les petits produits. J'aime bien garder mon odorat et pouvoir m'en servir si besoin.
Tu ne fumais pas des gitanes avec du bon
Non, du avant qu'on ait les tables avec aspiration basse, je fumais des cigarillos dans ces cas-là. Maintenant, je n'ai plus besoin.
C'est pour camoufler l'odeur ?
C'était pour la rendre supportable.
Allez, Carmen.
Demain matin, Michel Sapanet continue la formation de Lolita, l'étudiante en médecine. Ils vont autopsier le squelette retrouvé dans les bois pendant la reconstitution de scènes de crime. Le but aujourd'hui, c'est d'apprendre à Lolita à retrouver l'identité d'un squelette.
Le reste, ce sont nos indices. Voilà, donc le but... trouver les éléments qui peuvent intéresser les enquêteurs dans cet ensemble qui nous vient des bois.
Est-ce que c'est plus compliqué de trouver l'origine d'un décès sur un squelette ou sur un cadavre récent ?
Frais.
Frais.
Bah, sur un squelette, ça va dépendre. Si on a un enfoncement de la boîte crânienne, on peut imaginer un traumatisme crânien. Mais s'il n'y a pas une trace sur l'os, on n'aura pas la cause. On peut avoir une plaie par coup de couteau ou une plaie par balle sans qu'il n'y ait aucune trace sur les os. Par exemple, une femme qui serait étranglée, le larynx, au bout de 3 ou 4 ans, il n'y en a plus. C'est une structure plutôt cartilagineuse. Donc la strangulation disparaîtra. Les traces de la strangulation disparaîtront.
Tout ceci, on va gentiment...
Il est possible de faire parler un squelette et trouver un maximum d'indices pour élaborer un scénario criminel et déterminer un âge et un sexe.
Alors j'ai plus rien des mains et des pieds.
Les ossements sont bien conservés, mais éparpillés. Première difficulté, reconstituer le squelette. Cela peut prendre plusieurs heures.
Pour qu'un corps arrive dans cet état, il faut combien de temps ?
Oh, il faut plusieurs années. Hein. Je suis sur... je pense au moins 3 ans.
Toute la terre retrouvée sur les lieux du crime doit être tamisée pour retrouver le moindre fragment qui s'est détaché.
Connexion, ça c'est quoi ça ? Ça c'est un caillou. Donc on va refaire le tri après, il y a du travail. Hein, puisqu'il va falloir étudier chaque os, remettre chaque os à sa place, remonter un squelette complet. Bon, voilà, là aussi je suis sur une chemise de nuit à large échancrure. Donc, je peux avoir une balle dans le corps sans avoir d'orifice d'entrée. Hein.
Une chemise de nuit de vieille dame, un premier indice. Ne rien oublier, ne rien laisser au hasard, c'est toute la difficulté de ce travail. Au service de la justice, c'est à cet enquêteur de l'ombre d'apporter le maximum de réponses.
Ça peut être utile de le donner aux enquêteurs pour une demi-journée ou une journée entière.
Vous vous sentez utile ?
Ah oui, bien sûr. Quand vous êtes au procès et que donc vous arrivez aux assises et que vous faites votre déposition d'expert, que vous éclairez tout ce qui a été dit avant, en particulier la façon dont l'accusé relatait les faits, quand vous montrez que ce qu'il dit est tout à fait inexact, quand vous prouvez ces contradictions par rapport à ce que vous dit le corps, on a un rôle effectivement qui est majeur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on dit.
Voilà, ça c'est ce qu'il y avait près de la tête, hein ? Voilà, très bien. C'est quoi ça ?
L'osioïde ?
Voilà, il est fracturé ?
Je dirais que non.
Voilà, pourquoi c'est important ?
Pour éliminer une strangulation ?
Voilà, pour éliminer une strangulation, exactement.
Donc là, j'ai un demi-maxillaire. Maxillaire gauche, et là, j'ai l'autre demi-maxillaire. Maxillaire droit. Voilà. Les deux ensemble. Alors ça, c'est intéressant parce que cette personne a une couronne, un soin dentaire ici. Bon, on fera des radios pour voir s'il y a des soins qu'on ne verrait pas. Ceci, là, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une résine. Donc, ce sont des techniques classiques. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle a un dossier dentaire. Là, il manque deux dents. Mais ça, c'est des chutes post-mortem. Hein ?
Donc, pourquoi on voit que c'est post-mortem ?
Parce que les alvéoles sont parfaitement visibles. Ce n'est pas une extraction anté-mortem, puisqu'à ce moment-là, on a un caillot, on a du tissu de fibrose à l'intérieur qui va boucher l'alvéole en quelques semaines. Donc, ce qu'il va falloir reconstruire, refaire, c'est ça. Là, on récupère une hauteur de visage. C'est à partir de ça, on peut effectivement faire des évaluations
de portrait.
Grâce à plusieurs indices, les habits, l'étude des ossements et la dentition, Michel Sapanet pourrait facilement retrouver l'identité de la victime. Dans certains crimes mystérieux, le médecin légiste est le seul à pouvoir donner une identité à un corps. 1991, l'affaire Simone Weber défraie la chronique. Cette femme est soupçonnée d'avoir fait disparaître son amant Bernard Etier, dont on est sans nouvelles. Mais pas de corps, donc pas de crime. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard, un pêcheur tombe sur une valise, avec à l'intérieur, un tronc humain. Très difficile à identifier.
Il n'y a vraiment plus que le corps, il n'y a plus la tête, il n'y a plus les bras. Le corps est un peu en état déjà de décomposition avancée. Donc le corps est confié à un médecin légiste. Et on compare évidemment ce qu'il constate sur le tronc et ce qu'on peut avoir du dossier médical de Bernard Etier.
Calque et radio à l'appui, le professeur Coudane établit son diagnostic. Il existe une concordance très grande entre les radios de Bernard Etier et celles du tronc repêché dans la valise.
Et donc on est dans un espèce de mécano qu'on va totalement d'ailleurs reconstruire à l'audience. Hein. Madame Weber dira « oui, oui, on essaye de s'approprier ce tronc ». Ah oui, parce que ce tronc, effectivement, le médecin légiste dit « c'est celui de Bernard Etier ». Et donc c'est évidemment l'argument qui, à la fois évidemment, pendant l'instruction, va être un élément à charge contre Simone Weber, et c'est un des éléments qui va être à charge pour sa condamnation. Elle sera condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une cour d'assises, ce que dit le médecin légiste est considéré comme sans bavure, sans discussion.
Ce qui me plaît le plus, c'est redonner de l'humanité à ses victimes et effectivement participer à la sanction du coupable lorsqu'il y en a un, ou participer au contraire au fait qu'il soit innocent.
Mais quand l'identification est impossible, en dernier recours on fait appel en France aux gendarmes de l'IRCGN. À Rosny-sous-Bois, en région parisienne, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. C'est ici que des ossements sont envoyés de toute la France pour expertise, au département anthropologie-thanatologie. Sa mission, identifier les corps et rechercher les causes et circonstances des décès. Le médecin-chef, Yves Chouliard, fait partie de l'équipe d'experts. Il est médecin légiste. Son laboratoire unique en France s'est spécialisé dans la reconstruction faciale à partir des crânes.
Pour la reconstruction faciale, alors entendons-nous bien, hein, c'est une méthode qu'on utilise en dernier recours, quand toutes les autres techniques d'identification n'aboutissent pas, et quand notamment on n'a pas d'éléments comparatifs, on n'a pas de piste. On va tenter, par la reconstitution faciale, d'approcher le visage réel de la personne, de manière à ce que ce visage soit diffusé par les enquêteurs ou par les médias, et que quelqu'un dise « oui, ça me rappelle une personne que je connais », et donc ça va relancer l'enquête. On a des retours positifs, tout à fait. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas des exemples à vous montrer. Que je retrouve le dossier, avant que ce soit ailleurs. Voilà. Donc, voilà la numérisation du crâne. Avec, là, ici, il y a quelques standards d'épaisseur qui ont été positionnés. Un visage de synthèse qui a été établi en fonction déjà des données anthropométriques. Et ce visage de synthèse est déformé, vous pouvez venir se plaquer sur le crâne avec les standards d'épaisseur. Et voilà, ici, le résultat obtenu. Ensuite, lorsque le résultat est obtenu, on peut faire un habillage avec des cheveux, etc. Parce qu'on a un logiciel de portrait robot qui nous permet donc d'affiner les résultats. Alors voilà quelques exemples de réussite par cette méthode. Donc, la diffusion de ces portraits, donc si c'était un homme, si c'était une femme, a permis donc de retrouver ces personnes. On n'a pas la prétention de refaire parfaitement le visage d'une personne. Mais il y a quand même des éléments qui permettent donc à quelqu'un qui connaît cette personne d'être interpellé, de dire « oui, ça me rappelle quelqu'un que je connais, ça peut être… Voilà. » Après, on vérifie par d'autres techniques.
Un résultat proche de la réalité.
Tiens, vous voyez, celui-là aussi.
Une méthode qui a révolutionné le travail des médecins légistes pour les enquêtes les plus compliquées. Comme dans les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, le tsunami de 2002, ou les accidents d'avion comme au Venezuela où 152 Martiniquais ont été tués. Quelle est l'affaire qui a été le plus compliquée pour vous psychologiquement ?
Il y en a deux. Il y a l'affaire du tunnel du Mont-Blanc, qui a été très compliquée à mettre en œuvre, parce que c'était vraiment des conditions. On était en plein milieu du tunnel, à 6 km de la sortie, donc il fallait travailler dans le noir, dans des conditions difficiles. Ça a été très long. Il fallait identifier des véhicules dans le tunnel pour avoir une idée de qui pouvait se trouver dans ces véhicules. Et donc, on a les spécialistes du département véhicules qui sont allés avec nous pour d'abord identifier les véhicules carbonisés.
Sur les 40 personnes décédées, 5 ont été formellement identifiées. Les hommes de la police scientifique et les médecins légistes éprouvent les pires difficultés à mettre un nom sur les corps.
Imaginez ce qui peut rester quand la température a dépassé plusieurs centaines de degrés pendant 24 heures ou 48 heures.
Il a fallu 15 jours de constatation à l'intérieur du tunnel pour pouvoir retrouver et sortir les corps du tunnel. Ensuite, il a fallu 15 autres jours d'examen des corps pour arriver aux identifications. Et l'autre affaire qui a été compliquée, c'est une des dernières, l'affaire du Venezuela, donc un crash d'avion près de Maracaibo, où là, les corps étaient extrêmement abîmés, avaient été relevés dans des conditions très difficiles, et il a fallu faire de l'ADN sur tous les corps pour arriver à les identifier. Ça a été très long, très difficile. Donc c'est les deux affaires les plus qui ont été pour nous techniquement les plus dures. Ça permet de rendre aux familles les corps qui leur appartiennent, avec certitude. Et puis, quand les personnes retrouvent les corps qui leur appartiennent, donc elles peuvent entamer leur travail de deuil. Je crois que cette attente, elle est abominable, et nous, véritablement, on essaie de la réduire.
Les légistes, ces experts qui trouvent des solutions à tout, ou presque, sont maintenant les stars du petit écran. Leur univers fascine, et les producteurs l'ont bien compris. Les séries Les Experts, Bones et RIS cartonnent. Benjamin Dupont-Jubien est un des producteurs de RIS Police Scientifique.
Bien.
Une série qui suit les investigations d'une équipe d'enquêteurs. Une fois par semaine, il réunit les auteurs pour peaufiner des scénarios parfois inspirés d'histoires vraies.
Donc, 14 juillet. Ça me fait penser qu'il faudrait qu'on change le titre d'ailleurs.
Ouais, je sais, j'ai pas encore trouvé le titre plus accrocheur.
Un titre un peu plus vendeur. Mmh. Pour moi, d'entrée de jeu, t'as forcément un char d'assaut qui expose une bagnole dans le civil, t'as une armée de militaires qui verrouille le truc. Alors que tu fais arriver les flics quelque part avant les militaires. Alors les militaires ils sont sur place, tu vois, ils sont en colonne de chars les uns derrière les autres. T'as un char qui s'échappe, qui crase une bagnole, les autres ils mettent pas 3 heures à arriver quoi. Ils arrêtent les chars, ils descendent, ils bloquent la scène de crime est à nous, stop, la police militaire arrive. Il y a des officiers qui débarquent sur le champ, ils sont à 2 mètres de là sur les Champs-Élysées, ils vont débarquer dans la minute, et quand les flics débarquent après. Ok, on a le crime, on a des gens qui ont des mobiles pour faire ça, on a des gens qui s'aiment, qui se séparent et tout, mais sur le fond des choses, moi j'y crois pas à l'histoire encore.
L'objectif est d'être le plus réaliste possible, avec comme seule contrainte, faire en 50 minutes ce que les techniciens font en plusieurs semaines.
Je crois que ces séries-là, que ce soit Les Experts ou RIS, qui est finalement une déclinaison à la française de cette thématique-là, qui est d'essayer de résoudre des crimes par la preuve et d'approcher la mort de manière un peu scientifique, c'est quelque chose de rassurant. Ce qui rassure vachement les gens, moi je pense, c'est de se dire « Ah, c'est super de se dire qu'aujourd'hui, la science peut tout résoudre. La science peut soigner les gens. Dr House en est la preuve typique. Et la science peut trouver des coupables. » Quels que soient les mecs que je mets à la tête du RIS ou qui vont enquêter, la science va trouver le coupable.
Pour les aider, les auteurs ont un référent. Médecin légiste et entomologiste. Le professeur Gosset à Lille.
Ça l'amuse, lui, de travailler sur la série avec nous. Donc on l'utilise en consultant, en amont pour trouver des sujets. On aime bien aller déjeuner avec lui ou l'inviter sur le plateau pour discuter avec lui. Puis il nous raconte sa vie et puis il suffit d'appuyer sur le bouton play et puis on l'écoute parler pendant des heures et puis on ressort avec plein d'idées. C'est un vrai bonheur. Et puis sinon, quand on a après nous écrit des textes et qu'on a des scènes d'autopsie, on lui soumet les scènes pour voir avec lui le contenu, voir si on raconte pas trop de conneries.
Mais pour dépeindre la réalité, il a fallu dépasser la fiction et assister à des autopsies. Cette fois-ci pour de vrai.
Moi, je vais vous avouer que non. Moi, j'ai toujours refusé. Je suis très sensible, je tourne de l'œil très rapidement devant les choses très très réelles comme ça. Et puis, dans les auteurs qui travaillent sur la série, les trois quarts l'ont fait, ce voyage, pas tous. Et au niveau des comédiens, c'est vrai que nos deux comédiens principaux ont assisté à des autopsies pour... les deux qui font les légistes ont assisté à des autopsies. Ils n'ont pas tenu en entier. Voilà, ils n'ont pas tenu la durée de l'autopsie complète. Ils ont assisté au début, puis après ils ont dit « j'ai vu, merci ».
Je pense que c'est plutôt l'enquête criminelle qui interpelle dans ces séries-là. Les questions qu'on me pose, par contre, ou lorsqu'on me dit « je voudrais faire médecine légale », voilà, je suis en troisième, je voudrais faire médecine légale. Bon, je commence par leur dire « bon, ben d'accord, mais il faut d'abord être médecin ». Ah, bon. Je suis en première, je voudrais faire médecine légale. Ben oui, d'accord, mais il faut d'abord être médecin. Puis médecin légiste, il faut d'abord être un médecin du vivant, et après, vous pouvez passer au médecin de la mort. Quand j'ai de demandes de voir des autopsies aussi, parce que ça arrive très souvent, voir des autopsies, là, c'est un autre phénomène, parce que les gens savent que ce n'est pas la technique scientifique qu'ils vont voir. C'est vraiment le boulot du légiste. Et là, je crois que souvent, ça répond à des problématiques personnelles. Je veux voir une autopsie parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose de la mort que je ne peux pas trouver autrement qu'avec un légiste. Voilà. Qu'est-ce que je deviens après la mort? Comment est mon corps après la mort? Où se trouve mon âme?
Misère sociale, agression, accident, crime. La médecine légale est là pour éclairer les moments obscurs. Une pratique qui brise les tabous de la mort pour raconter une histoire. L'histoire des derniers instants d'une vie.